Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu avec ce soir Yves Maître qui est là. Salut Yves.
Bonsoir.
Heureux de te retrouver mon cher Yves. Vous le savez, Yves Maître qui a travaillé chez HTC, qui est un spécialiste de la tech, de la VR, hein, puisque quand tu étais chez HTC, évidemment, c'était ton job. Et tu es aussi Operating Partner Jolt Capital. À tes côtés, c'est Frédéric Bianchi. Salut Fred.
Bonsoir.
Journaliste à BFM Business et la famille aussi avec Fred Simotel. Salut
bonsoir,
Fred.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Évidemment, journaliste à l'excellente rédaction de BFM Business. Plein de sujets passionnants ce soir. On va parler d'NVIDIA aussi dans quelques minutes. Mais pour débuter donc, OVH Cloud. Alors il y aura deux temps forts OVH. On va débriefer sur cette annonce de Mosaic et de ce partenariat avec Candela. Et puis tout à l'heure, je recevrai donc, je le disais, Michel Paulin, qui est le directeur général d'OVH Cloud, et Niccolo Somachi, qui est le cofondateur et directeur général de Candela, pour cette inauguration qui s'est faite en grande pompe, hein, avec des membres du gouvernement, du côté de Lille, je crois, près de Lille, hein, c'était
à Croix, ouais.
À Croix exactement. Voilà, donc nos deux invités tout à l'heure. Mais messieurs, donc voilà, c'est plutôt positif le fait que voilà OVH Cloud s'associe avec une autre pépite de la tech française qui est Candela. Yves, est-ce que tu t'intéresses un petit peu au quantique, qui est un sujet quand même assez costaud, hein, il faut quand même l'avouer.
J'espère qu'il va nous dire oui.
Alors je pose cette question, mais je le sais parce que tout à l'heure il m'a dit ça m'intéresse. Donc
d'accord.
C'est pour ça, tu vois, je prends pas trop de risques quand même malgré tout. Là il pourrait m'avoir en me disant non François, ça en m'intéresse fait, pas
non,
du tout. Là ça serait une petite blague sympathique le 1er avril, pourquoi pas. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est un sujet que tu suis, et est-ce que c'est à ton avis cette révolution, on va dire, de la puissance de calcul que certains imaginent dans quelques années?
Alors, d'abord, est-ce que ça m'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup. Tu sais que ma formation, moi j'étais ingénieur en physique nucléaire. Donc quand tu fais la physique nucléaire, tu t'intéresses à l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique et la physique quantique. Donc forcément,
et
on est obligé.
Les fractales.
Voilà. Ça, c'est encore plus des mathématiques. Ouais. C'est un peu autre chose. Mais bon. Donc, alors, oui, c'est une révolution, mais peut-être. Pour expliquer, pour un peu démystifier la chose, parce que quand on parle d'ordinateur quantique, c'est un peu compliqué, parce que c'est pas tout à fait. Alors, peut-être qu'il faut expliquer les choses, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible. Dans un ordinateur, on a des bits. Un bit, il a deux valeurs, soit il est à 0, soit il est à 1. Okay.
Et un chipset, un peu le fondement de l'informatique.
C'est le fondement
de l'informatique. C'est le langage de l'informatique.
C'est le digital.
C'est ça.
Ce qu'on appelle le digital.
Oui.
Donc, soit l'objet est dans un état 0, soyez dans un état 1, ok. Et un chipset, c'est, on le verra tout à l'heure sur Nvidia, 200 milliards de transistors. Et un transistor, c'est comme un interrupteur. Enfin, c'est pas tout à fait ça, pour faire simple. Soit il est ouvert et le courant y passe pas, c'est 0. Soit il est fermé, le courant y passe et c'est 1. Donc tout est basé sur des 0 et des 1. Dans le quantique, c'est autre chose. C'est basé sur une autre logique, enfin, un autre paradigme qui est de dire, on peut être soit 0, soit 1, soit dans des états superposés. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la chose dont on parle souvent dans le monde quantique, c'est de dire, c'est la dualité onde-particule. Okay. Donc, quand on regarde un grain de lumière, okay, c'est soit une onde, hein, on a une onde, soit c'est une bille.
On a un vrai cours de physique quantique.
Ah oui, non, mais là.
Mais en fait, ça peut être les deux en même temps.
Il te manque plus que le tableau Velleda, le petit feutre.
Et, donc, j'en suis
et on y va, et nous, on serait là, en train de prendre des notes.
Non, mais déjà, j'ai le nom de famille en m'appelant maître.
C'est vrai.
Bon. Et si tu veux, aujourd'hui, avec un ordinateur normal, on fait des calculs avec des 0 et des 1. Avec un ordinateur quantique, on a des états intermédiaires. Donc, on fait beaucoup plus de calculs parce que l'objet sur lequel on calcule peut avoir plusieurs états. Donc on multiplie les puissances de calcul de manière exponentielle. Donc c'est ça la grande différence. Par contre, on ne peut pas faire tous les calculs. Donc autant un ordinateur, c'est plus général, on fait des calculs sur à peu près tout,
d'accord,
dont l'intelligence artificielle. Mmh. Sur du quantique, c'est vraiment sur des algorithmes de grande complexité et dans certains domaines. Donc
C'est-à-dire qu'en fait, le quantique ne va pas révolutionner l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les deux cohabiteront.
Absolument.
Pour
absolument.
Certaines tâches, oui, il y aura toujours les 0 et les 1.
Absolument.
Expliqué. Et puis pour certains calculs, on va dire, hautement complexe, etc. Là, le quantique prendra le relais. Absolument. Et là, la révolution, c'est que certains calculs qu'on n'ose même pas imaginer aujourd'hui, de par leur complexité, pourront être envisagés. Absolument. grâce au quantique, c'est ça, hein ?
Absolument. Mais ce n'est pas du tout les mêmes types de programmation. C'est-à-dire que on me disait, alors moi j'en ai pas fait, donc je vais probablement prendre quelques cours pour essayer de comprendre moi-même, le faire moi-même, mais on me disait, il faut que tu désapprennes tout ce que tu as pu apprendre sur la logique binaire, sur le digital, pour reprogrammer sur des ordinateurs avec une logique analogique. Donc c'est vraiment un
autre... On va pas y aller tout de suite, nous, hein, je sais pas ce que vous en pensez.
Parce que même dans les télécommunications, tu peux avoir deux particules qui peuvent avoir le même état et qui sont pourtant séparées. Et pourtant, l'information passe. Enfin, il y a tout un ensemble de systèmes. Et c'est vrai qu'on retrouve ça, le chiffrement, on va le retrouver dans la sécurité.
Elles sont séparées, excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis. Elles sont séparées, mais malgré tout, l'information passe.
Oui.
Et elles peuvent être séparées.
Une sorte de télépathie, on va dire.
Voilà, elles peuvent être séparées de distances incroyables. Oui, oui. C'est presque mystique. Il y a un côté un peu étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend pas ce qui se passe.
Philosophiquement, c'est
étonnant. Hein.
C'est à la fois de l'informatique, c'est à la fois de l'informatique, c'est à la fois de la mécanique, c'est de la physique, c'est de la chimie. On est au zéro absolu. Hein. C'est moins 273 degrés. Donc voilà, c'est pas n'importe quel ordinateur. Et puis derrière, on va dire pour simplifier un peu, on a le chiffrage sur la sécurité, donc le cryptage, enfin le chiffrement des données. On a autre chose, ça peut être le calcul. La simulation informatique, voilà, pour dire tiens, on va créer tel type de médicament, qu'est-ce qui pourrait avoir comme effet sur tel type de personne avec tel type d'ADN et tout ça. Et puis on a le dernier qui est l'optimisation combinatoire. C'est on va trouver le meilleur chemin pour un livreur pour arriver au bon endroit, c'est le meilleur, la meilleure fluidité sur un avion. Enfin voilà, c'est un peu les trois principaux calculs. Et derrière, voilà, c'est des machines qui coûtent cher. On n'y est pas encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on parle d'ordinateur quantique, mais on n'y est pas. On a des choses qui simulent un peu.
Le mosaïque qui a été inauguré dans les locaux d'OVH, c'est pas tout à fait un ordinateur quantique.
On posera la question tout à l'heure à Michel Pollin. Rentrer dans les détails, mais après, il y a deux voies qui sont prises entre quand là et Pascal, par exemple, ils n'ont pas pris la même voie pour développer leurs ordinateurs quantiques. Hein. Il y a différentes technologies aussi dans ce domaine. Donc là, Candela en a pris une, Pascal en prend une autre. Mais voilà, et on a la chance en France d'être plutôt fort dans ce domaine, de pouvoir se positionner dessus. Mm-hmm. Il y a un plan quantique qui est mené. Il y a
eu, le plan France 2030.
Voilà, exactement. Il y a quelques milliards de là. Et ce qu'il faut, et les entreprises commencent à y aller. On sait qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises investissent minimum 1-2 millions d'euros, de dollars dans ce domaine, parce que aujourd'hui, toutes les études le disent, hein, il faut aller vers le quantique dans quelques domaines que l'on soit, dans le luxe, dans la chimie, il faut commencer à regarder ça, parce que celles qui y vont maintenant auront un avantage concurrentiel plus tard.
Alors évidemment, ce partenariat entre Candela et OVH, Fred, c'est bien parce que, évidemment, en termes de souveraineté technologique, on envoie un bon signal. Ça sera réservé, je pense, à la recherche au départ, hein, parce que, bien sûr, là, on a une bête de compétition, il faut savoir la faire fonctionner, hein, cet appareil-là.
Alors, c'est justement ça, l'objet de l'accord avec OVH, Cloud, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les services, la puissance de calcul va être fournie à des utilisateurs qui pourront tester et éventuellement développer des applications. Alors, on verra avec Michel Pollin tout à l'heure, pour savoir si c'est un vrai ordinateur quantique. Ça reste un ordinateur quantique très basique. Hein. On sera sur 12 qubits. Imaginons un ordinateur qui aurait 12 bits aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment très petit.
Ça va être du chiffrement
et l'ouverture aussi donc sur le cloud d'OVH pour essayer de développer des applications. On parle d'une technologie, du deep tech là quand même. On est vraiment à la préhistoire du quantique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui, sur le plan expérimental, montent à 1000 qubits. Donc là, on a dit 12. On peut monter à 1000, voire au-delà. Hein. On parle de solutions, je crois que chez Pascal aussi, l'autre pépite française, on aurait développé des machines jusqu'à 1000 qubits. Mais la difficulté, c'est qu'au plus on a de grandes puissances de calcul, au plus il y a aussi beaucoup d'erreurs à corriger, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ça, corriger les erreurs, ça met énormément de temps. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas encore maîtrisée, mais on peut se réjouir que la France a trois pépites, hein, parce qu'on a, parlé
Candela, Pascal.
Candela, on a Pascal, on a aussi Alice et Bob, hein, qui est une start-up française sur le quantique. On est peut-être aujourd'hui en Europe le pays le plus avancé. Alors, il y a les Américains aussi avec IBM qui sont loin devant, mais c'est vrai que le plan quantique, je crois qu'il est doté d'une enveloppe de plus d'un milliard d'euros sur 5 ans. La France met le paquet là-dessus. Alors, ça reste avec un point d'interrogation. Est-ce qu'un jour, l'ordinateur quantique verra vraiment le jour, hein, parce que là, aujourd'hui, on parle vraiment de proto-machine. Est-ce que ça verra le jour? On ne sait pas. En tout cas, la France est bien en avance.
On parle de 2035-2040 pour avoir vraiment les premiers effets.
Juste, Yves, comment sont les Américains là-dessus? Parce que là, on parle de notre innovation franco-française. Mais il faut savoir que Google investit énormément aussi dans le quantique, notamment. Et j'imagine que tous les autres aussi.
L'Asie, on ne sait pas trop.
L'Asie, pas d'accord.
Les États-Unis et l'Europe, on connaît. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le cloud, on est en retard. On a été en retard. Donc après, on a des sociétés comme OVH qui ont essayé de rattraper le retard, mais face à AWS, Azure, on a eu un train de retard. Sur les AI, on est à jour. Hein, on a Mistral, qui challenge, on est à jour. On est plutôt, dans le monde entier, on est reconnu comme étant, on est monté dans le train au bon moment.
On est au niveau d'OpenAI.
Ah, on est
quand même.
On est à jour. C'est quelques mois.
D'accord.
Allez, c'est 6 mois, c'est 8 mois, mais c'est rien, 6 mois, c'est rien. Okay. Dans le quantique, avec les Américains, on est en avance, et je dirais même, par rapport aux Américains, on est en avance. Et ça, c'est intéressant, parce qu'une société comme OVH, elle met cet ordinateur quantique, qui est un des premiers ordinateurs industriels quantiques. C'est vraiment un des premiers. Certes, il est tout petit, mais c'est un des premiers ordinateurs qu'on peut acheter. Alors, ça coûte des fortunes, donc on ne peut pas l'acheter pour soi. Mais
je ne sais pas ce qu'on en ferait, surtout.
1 million d'euros.
Mais on apprend à programmer. On apprend à programmer, on apprend à faire du logiciel, on apprend à s'en servir. Parce que c'est un tel changement, il va falloir des années pour que ça sorte des laboratoires. Je ne parle pas uniquement l'ordinateur, mais qu'on sache le programmer, qu'on sache l'utiliser, il va falloir des années.
Est-ce que c'est ça
qui est intéressant, c'est que quand ça va exploser, on aura l'écosystème qui va pouvoir continuer cette avance qu'on a.
Est-ce qu'on peut faire fausse route? Est-ce qu'on peut se dire dans quelques temps que finalement, toute cette recherche, tous les espoirs qu'on misait sur cette informatique quantique n'est pas réalisable? Est-ce qu'on peut aller vers une impasse?
Écoute, a priori, je pense pas. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même...
Dans le domaine de la simulation, c'est pas possible.
Enfin, il y a un consensus pour dire que...
Il y a des voix discordantes quand même. Hein. Il y a des gens comme Alain Aspect, qui est prix Nobel, qui fait partie d'ailleurs de Pascal. Hein. Pascal, je crois qu'il est conseiller.
Mais c'est juste parce qu'ils ont pris des voix différentes. Ils n'ont pas pris la même voix que Candela, donc
ça veut dire qu'il y a deux voix différentes. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, en théorie?
Alors là, peut-être. Hein, on aura.
Donc ça veut dire que peut-être la voix de Candela n'est pas la bonne, ou peut-être celle de Pascal n'est pas la bonne.
Mais c'est comme les processeurs IA aujourd'hui sont développés d'une certaine façon. Il y a des choix qui sont faits. Ben peut-être que quelqu'un va trouver un jour la martingale pour les développer encore moins.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'échec est possible dans.
Mais l'échec est toujours possible. Et heureusement que l'échec est possible, parce que d'abord, si
on pouvait ne pas avoir d'échec,
c'est
bien.
Mais si, ben regarde, quand tu apprends à marcher, tu tombes. Ok, oui. Moi, j'ai jamais vu personne qui marchait en lisant un PowerPoint. Ok, tu tombes et tu remarches. Donc, je pense que ça fait partie de la recherche. L'échec, ça fait partie de l'échec de la recherche. Et donc,
non, mais ce que je veux dire par là, ça serait bien que
l'échec, à mon avis, il n'est pas théorique, parce que théoriquement, on sait où ça va. C'est comment j'industrialise le plus rapidement possible au meilleur coût. Ça, c'est un autre challenge.
Et comment je ramène des compétences? Alors, on a aujourd'hui, on a le pôle de Saclay, hein, de recherche. On a déjà des divisions de quantique à Polytechnique, comme Paris, au CEA, on a toutes ces écoles. On a un fonds aussi, faut pas l'oublier, Cantonation.
Plein de startups.
Qui est le premier fonds, je pense, européen aujourd'hui dans ce domaine. Et voilà, on a décidé de se projeter plus à 2035 que sur l'IA, mais c'est pas plus mal. Et je pense que le pari que fait OVH, alors, oui, il y a un pari technologique, hein, mais c'est pas le premier qu'a fait Octave Klaban ni Michel Collin.
Évidemment, juste petite question, il est pertinent de mettre toute cette puissance de calcul dans le cloud, forcément. Enfin, je veux dire, ça a du sens, parce que c'est le partenariat justement entre Candela et OVH Cloud.
Le but de le mettre dans le cloud aussi, c'est de le proposer à d'autres, c'est de le proposer à des entreprises, c'est de le proposer, ils le disent aussi à des étudiants, hein, des étudiants qui arriveront avec des projets ou des startups, évidemment.
Il faut l'ouvrir, il faut créer cet écosystème. Si on garde quelque chose pour soi, on ne crée pas un écosystème, l'ouvrir.
Dernière question que je posais tout à l'heure à Michel Paulin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coup de com', ce partenariat Candela OVH Cloud, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, ça va déboucher sur quelque chose? Parce qu'on pourrait très bien se dire aussi que...
C'est pas un coup de com', ils ont quand même mis de l'argent,
oui,
ils parient, ils ont des investisseurs derrière.
C'est très bien qu'OVH a eu des moments difficiles.
Oui, mais ils ont des... Alors, c'est peut-être un... On pourrait voir ça un coup de com' pour dire, regardez, d'accord, la bataille du cloud, enfin, telle qu'on le conçoit, comme avec les hyperscalers, les AWS... Voilà, là, elle est plutôt gagnée par eux. Ben nous, on va utiliser notre cloud, on s'oriente vers d'autres voies, et notamment le quantique. Je pense que c'est plus vers là qu'il faut parler. Après un coup de com', il y a quand même de l'investissement. Il y a un pari technologique qui est fait, un pari financier aussi. Il y a quand même des investisseurs derrière. Ils ont dit oui parce qu'ils y croient. Mais donc
après, le montant de la transaction est secrète, non? On a des informations.
L'engin en question, je crois que c'est 1 million d'euros.
Même
si c'est un coup de com', François, c'est quand même un bon coup de com'.
Ah non, mais bien sûr.
Un coup de projecteur sur la recherche, un coup de projecteur sur ces technologies qui sont assez obscures. Et là, c'est vrai qu'avec les déplacements de deux ministres, on en parle. Ça met la technologie entre les mains, comme le disait Frédéric, d'étudiants, d'entreprises, tout ça. Bon, bah, la com', c'est pas toujours négatif. Et là, si c'est que de la com', c'est de la com' plutôt positif.
Regarde OpenAI, hein. Enfin, c'est beaucoup de techno, mais beaucoup de com' aussi. Hein.
Parce que c'est ce que j'allais dire dans le domaine des coups de com', les Américains.
Il faut faire des coups de com' avec ces technologies.
Non. Oui, mais excusez-moi, OpenAI, compliqué de comparer ChatGPT, etc. C'est compliqué de comparer cette association, enfin ce partenariat entre OVH et Candela et OpenAI, parce que OpenAI,
il y avait une application directement en termes de com'.
Voilà. Oui, en termes de com', parce que le jour où on a vu ChatGPT, enfin, on s'en est pris plein la figure, et je pense qu'il va être compliqué peut-être pour OVH et pour Candela de nous montrer, enfin, de montrer au grand public les effets. On va dire direct de cette association.
Malheureusement, on ne les verra jamais. Le quantique, c'est des applications B2B. Ouais. C'est par exemple, aujourd'hui, je crois qu'un ordinateur n'est pas capable d'optimiser un trajet de livreur quand il a plus de 10 arrêts à faire. Au-delà de 10, il n'arrive plus.
Ça, c'est l'optimisation combinatoire.
Il pourra optimiser les trajets, 10, 20, 30 arrêts. Voilà, ça, c'est
ça explose. En fait, il arrive à exploser les probabilités, les calculer.
Si tu résumes, tu imagines, tu as une table en bois avec un labyrinthe, et avec un ordinateur traditionnel, tu as ta bille, tu vas aller à droite, à gauche, pour essayer de la faire sortir du labyrinthe. Mmh. Là, l'ordinateur quantique, il a toutes les solutions, tous les tableaux en bois, ils sont devant toi. Tu lances ta bille au même moment dans tous les trucs, et à un moment, elle sort, parce qu'il y en a un qui est juste. Donc, c'est un peu ça. Donc, on résout le calcul tout de suite.
Mais c'est vrai que le grand public ne verra pas des applications. C'est pas un ordinateur qui va améliorer les graphismes de GTA 6, par exemple.
Mais est-ce que ça peut bouleverser, par exemple, la puissance de l'intelligence artificielle générative? On parle beaucoup de puissance de calcul. On va parler d'NVIDIA qui a annoncé une nouvelle puce. Est-ce que ça peut bouleverser l'IA?
Pour amener de la data, je pense, autour de la data. Moi, je vois surtout ça dans le domaine de la chiffrement, la sécurité,
l'optimisation combinatoire.
Pas de la puissance brute de calcul qui nous...
Ça ne remplace pas l'informatique. Hein. Okay. C'est pas une nouvelle informatique.
Je vais être un peu méchant, parce que les ingénieurs en physique quantique disent l'AI... C'est quand même du calcul de bourrin, quoi. C'est beaucoup de calcul, pas beaucoup de finesse. Ça, c'est pas gentil de dire ça.
Non, c'est pas gentil.
Les gens de la quantique disent non, nous, il y a beaucoup de finesse, c'est beaucoup moins général,
Et pas beaucoup de calcul pour le moment.
Mais on est dans un autre domaine. Et je pense que ça va révolutionner des choses, par exemple dans la distribution de l'énergie, par exemple dans la logistique, par exemple dans des calculs d'aéronautique, etc. Oui, là, ça va changer les choses. Pour notre vie de tous les jours, de faire la cuisine, probablement pas.
Et puis, un dernier mot, hein, OVH et Candela, c'est pas une structure publique qui est vouée à faire de la recherche pour la recherche et faire travailler des étudiants, c'est super. Non, le but, c'est d'aller voir des entreprises et de leur dire,
les
entreprises de livraison, les entreprises de qui vont optimiser leur parcours d'avion, les calculs que l'on peut faire aujourd'hui pour optimiser les routes des... Enfin, voilà, pour optimiser ce que l'on vient de dire dans l'optimisation combinatoire, le chiffrement, la sécurité, c'est aller voir toutes ces entreprises et leur dire, venez chez nous, venez tester, on est là. Et puis voilà, c'est une façon d'attirer ses clients sur un autre domaine, dire, gardez vos autres choses si vous voulez chez AWS et Google Cloud, mais voilà, nous on est là sur ce domaine.
Il va falloir, j'imagine, avec ce nouvel outil, créer de nouveaux métiers aussi, non?
Ah oui, il va y avoir.
On est d'accord.
Il va falloir de nombreux ingénieurs aussi.
C'est une belle transition. C'est une belle transition que j'essaye de mettre en place.
La passe décisive, comme on dirait chez nos copains des MC.
Non, mais sérieusement, parce que c'est vrai que, vous le savez, la France manque d'ingénieurs aujourd'hui. Et selon le Syntec Ingénierie, nos entreprises vont avoir besoin de 80 000 personnes d'ici à 2030. 80 000. 2030, c'est dans un peu plus de 5 ans. Hein. Problème, alerte l'organisation professionnelle, donc il va nous en manquer plusieurs dizaines de milliers. Et Jean-Baptiste Huette nous a fait un petit reportage qu'on écoute. Et après, évidemment, on va commenter tout cela.
Mais où sont les ingénieurs? Le Syntec Ingénierie alerte, 80 000 nouveaux emplois sont à pourvoir d'ici 2030. Seulement, faute de professionnels formés, 20 000 postes sont susceptibles de rester vacants. Ceci au moment même où des secteurs comme la décarbonation industrielle et l'intelligence artificielle sont en pleine expansion. Hydrogène, nucléaire, algorithmes, cybersécurité. En cause, un vivier d'étudiants insuffisant et une offre de formation incomplète. Une pénurie de talents, explique le Syntec, qui pourrait représenter pour le seul secteur de la construction, jusqu'à 4,2 milliards d'euros de manque à gagner. Alors, quelle piste pour s'en sortir? Le Syntec veut davantage promouvoir les métiers d'ingénieurs, en particulier au sein des établissements scolaires et surtout élargir, coûte que coûte, les viviers de recrutement. Seuls 30% des ingénieurs diplômés chaque année sont des femmes et peu sont issus de milieux défavorisés.
Voilà, des dizaines de milliers de futurs ingénieurs. Il faut susciter des vocations auprès des ados, hein, et en tout cas des jeunes qui nous écoutent. Après, ça peut être aussi une seconde carrière, hein, dans une vie professionnelle. Pourquoi pas?
On en a vu, ouais.
On le disait, avec le quantique, il y a plein de nouveaux métiers qui... Enfin, de nouvelles manières de penser, parce que tu le disais, c'est une autre manière de penser l'informatique. Il va falloir l'enseigner aussi,
Il va falloir former des enseignants.
Voilà. Et ce manque d'ingénieurs, c'est un problème, hein.
Non, mais c'est un vrai problème. En plus,
j'ai envie de dire, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau. En plus, ingénieur, ça se conjugue plutôt au masculin. Donc, en plus, on va puiser dans un réservoir qui est plutôt masculin, parce qu'on n'arrive pas non plus à attirer davantage de femmes. Alors qu'on aurait des femmes en plus, ça doublerait quand même le réservoir. Non, on a un vrai souci. J'étais à une conférence il y a quelques jours. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui disait c'était en France, hein, que 40% des jeunes. Alors des jeunes ados, pré-ados, tout ça était pas déprimé, mais un peu regarder l'avenir un peu de façon morose parce que le contexte géopolitique, parce que la planète brûle, parce que les métiers, on sait même pas, on se dit je vais apprendre un métier, mais
oui, dans six mois il est peut-être obsolète.
On voit l'IA arriver, on entend dire les robots vont nous remplacer. Enfin, il y a un côté, et donc du coup cette personne estimait que ça pouvait être un peu le lien avec le fait que les gens cherchent d'autres types de métiers qu'aller vers des métiers scientifique, parce que justement là ils ont, en plus, je reviens pas sur l'effet Covid où la science a été remise en cause et tout ça, et donc il y a cet effet là donc il faut redonner envie à la science. On a une Miss France, je crois, qui va être ambassadrice mathématique
auprès mathématicienne,
et je pense que c'est de ça dont on va avoir besoin, c'est des ambassadrices pour donner envie, qu'on a bien dans le sport des gens qui donnent envie de faire du foot, de faire du tennis, de faire de jouer au flipper, tiens. et voilà, et il faut
qu'on adore le flipper avec
Bref, on manque aujourd'hui un peu de modèles. On avait un Cédric Villani, mais bon, il a un peu disparu de la circulation. Là, aujourd'hui, on part Arthur Mensch. À nouveau, on le réinvite ici pour qu'il montre un peu que c'est possible. Alors lui, c'est un cerveau particulier, mais voilà que c'est possible.
Alors, on a Yann Le Cun, par exemple.
Ouais. Oui. Tu dis Yann Le Cun.
Je ne sais pas si les anglo-saxons, ils l'appellent le coup, parce qu'ils ne disent pas le quin.
Oui, c'est amusant. Non, on ne l'a jamais appelé comme ça, mais bon, c'est vrai.
Je voudrais quand même remettre quelques chiffres. En France, on forme 40 000 ingénieurs par an.
45 000. Un peu plus.
45 000. 50 000.
Allez, je t'accorde. Il en rajoute 5.
Okay. 50 000, on n'y est pas justement, c'est l'objectif du
gouvernement. Aux États-Unis, 250 000.
Et en Chine.
Ok. Bon.
Après, il n'y a pas la même population.
En Chine, 1,2 million. En Inde, 1,5 million. Ok, alors maintenant on fait un petit calcul. On dit 40 000, j'ai fait sur 40 000, je suis désolé, bon, on rajoutera 10%. Alors. On prend 40 000, on multiplie par 40 ans, une génération. Hein, on commence son école d'ingénieur à 20 ans, on sort en retraite à 65 ou 25 ans, 65, enfin, donc c'est 40 ans. Ces 40 ans-là, on forme des ingénieurs pendant 40 ans. Une génération d'ingénieurs en France, c'est une année d'ingénieurs qui sort en Inde. On prend la première école d'ingénieurs, 1747, c'est les ponts et chaussées en France. 230 ans, à peu près. Eh bien, en 10 ans, l'Inde a fabriqué autant d'ingénieurs que la France dans toute son histoire. Alors, on se dit... Ok, on peut en faire 10 000 en plus, 20 000 en plus.
Après, c'est pas le même nombre.
On n'est pas dans la
même. Pas le même nombre d'individus aussi. Il faudrait peut-être pondérer par rapport au nombre d'habitants qu'il y a.
Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire,
c'est... Oui, c'est vrai que les chiffres sont impressionnants comme
on
ça.
On n'est pas dans la même cour. OK? Alors, soit on se dit...
Il y a 1 milliard d'habitants en Inde, hein, c'est ça à peu près, non?
Plus d'un milliard. 1 milliard. Comme la Chine.
L'Inde a dépassé la Chine, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, il faut former. Mais ça, c'est du long terme. Et ça fait des années qu'on en parle. Moi, quand j'étais en école, on en parlait. Il y a un autre moment, il faut se dire, ben, si on veut attirer des talents, que nous, on en fait 40 000, qu'eux, ils en font en Inde 1,5 million, ben, va peut-être falloir faire de l'immigration. L'immigration de cerveau, l'immigration d'ingénieurs dont on a besoin. Parce que, il faut regarder la réalité en face.
Ce que font les États-Unis, d'ailleurs.
Ce que font les États-Unis. Ce qu'on fait en France, quand vous allez dans la Silicon Valley, honnêtement, vous avez un paquet d'Indiens, un paquet de Chinois, enfin, Indiens, Pakistanais, etc., Chinois,
et le nombre d'Indiens qui sont à la tête de grandes entreprises américaines,
Nvidia,
Sundar Pichai, Satya Nadella,
Microsoft,
AMD, Microsoft, voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'il va falloir se poser la question de la formation, et ça, c'est entendu, mais aussi de l'immigration de ces cerveaux. Parce qu'on ne peut pas rivaliser par rapport à ces puissances qui forment 1,5 million, plus d'un million d'ingénieurs par an. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faudrait que 10% des Français deviennent ingénieurs tous les ans. C'est pas possible.
Juste un mot pour finir sur une note positive. D'abord, il faut rappeler qu'on n'a jamais autant formé d'ingénieurs en France qu'aujourd'hui. Hein, 45 000, on n'en a jamais autant formé. Tu disais tout à l'heure 250 000 aux États-Unis, à peu près 50 000 en France. Bah, c'est à peu près le même ratio que la population. Donc finalement, les Américains ne font pas plus d'ingénieurs que les Français. Hein. Ils sont 5 fois plus, ils forment 5 fois plus d'ingénieurs. Bon, on est à peu près dans les mêmes ratios. Ensuite, ce qui est intéressant avec le Syntec, c'est justement cette campagne, parce que l'objectif du débat, c'est de dire ce que fait le Syntec Ingénierie. Donc, ils vont lancer une campagne, justement, à destination des jeunes de 13 à 18 ans pour dire les métiers de l'ingénierie sont divers, les métiers de l'ingénierie sont intéressants. Éventuellement, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est les métiers de l'ingénierie sont bien payés. Parce que c'est ça aussi qui attirera les jeunes, hein. C'est de dire qu'on fait de belles carrières dans l'ingénierie. Donc c'est ça.
Parce que c'est 5 ans d'études. C'est 5 ans d'études, être ingénieur.
5 ans d'études, après on peut faire une thèse.
C'est des bons salaires, c'est des perspectives de carrière en France, à l'international. Et puis, les écoles ne restent pas les bras croisés non plus. Hein. Il y a des pleins d'écoles. Je crois qu'à Centrale Lille, par exemple, un quart des ingénieurs formés actuellement viennent de l'étranger. Donc, on forme aussi quand même des ingénieurs étrangers. Les écoles aussi vont de plus en plus chercher des étudiants qui sont en BTS ou en IUT, donc des techniciens, pour justement leur dire, essayez d'aller plus loin, venez chez nous, on va vous former au métier de l'ingénierie. Donc, voilà, on ne reste pas les bras croisés. On forme beaucoup d'ingénieurs comme on n'en a jamais formé dans ce pays. Alors, c'est certes pas assez. Mais voilà, il y a des choses qui se font et on va y arriver.
Et il faut peut-être revoir aussi la partie éducation. On n'insiste pas assez sur les maths. Il faut arrêter de dire que les maths, c'est compliqué, tout ça. Les statistiques, ça a un côté... C'est une gymnastique de l'esprit. Il faut arrêter de cantonner les maths. Je ne comprends rien en maths et tout ça.
Et notamment auprès des publics féminins. C'est vrai qu'on forme aujourd'hui un tiers d'ingénieurs qui sont des femmes. Et c'est vrai qu'il y a ce blocage tout le temps société...
On peut être ingénieur en ne faisant autre chose que des maths, quand la biodiversité ou autre, on ne fait pas que des maths. L'ingénierie, ce n'est pas que de la physique et de l'art.
C'est pour ça que je te dis qu'il faut des exemples, il faut des gens qui montrent l'exemple, il faut parler de ces métiers, il faut en parler autrement que le développeur en suite à capuche, parce que ce n'est pas que ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et puis voilà, nous on est même prêts à aller dans les écoles pour leur raconter
la vie. Ah, mais ça c'est clair. Voilà. C'est vrai, ça serait une bonne initiative, ça. Hein
non, mais on leur parle de tout ça. Regardez, vous allez faire des voitures.
Faire un tech and co et leur expliquer.
Vous allez partir dans l'espace, vous allez faire tout ça, vous allez travailler sur des nouvelles.
Yves aura son tableau pour le quantique. Voilà. Là, il ne faut pas que les jeunes décrochent quand tu nous expliques ça. Hein, ça va être. Mais on va tenter. Vous restez avec nous. Les deux Fred, Yves, la suite de Tech & Co, la quotidienne, dans quelques instants. On reviendra sur cette annonce d'NVIDIA, donc avec ses super processeurs qui accélèrent la puissance de calcul de l'intelligence artificielle. On évoquera aussi Apple qui pourrait s'acoquiner avec Google. Tu en parlais hier dans Tech & Co, avec Gemini. Et ça pose plein de questions, notamment en termes de vie privée, parce que d'un côté, on a Google, tout est open bar en termes de vie privée, et de l'autre côté, Apple capitalise. C'est un business. La sécurité des données. On évoquera tout ça juste après l'info éco. Il est bientôt 20h30, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Ouais, on m'a coupé la chic jusqu'à 21h, donc on débriefe l'actu tech avec Frédéric Bianchi qui est là, journaliste à BFM Business, Yves Maître, Voilà, Operating Partner, Joel Capital, consultant, ancien PDG de HTC, Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste lui aussi à BFM Business. J'aimerais qu'on parle maintenant de Nvidia, puisque vous le savez, c'est l'événement de l'année dans le monde de l'intelligence artificielle. Et en fait, cet événement est comparable à celui d'Apple qui présente un nouvel iPhone. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Nvidia organise pendant 4 jours une énorme conférence de développeurs pour présenter en fait toutes ces nouveautés. Et certains parlent même d'un Woodstock de l'IA. Anthony Morel nous en parlait ce matin dans la matinale.
On a l'impression d'être plus à un concert de rock, si vous voulez, qu'à une conférence développeur, parce que c'est ça quand même, hein, cet événement, grand événement organisé par Nvidia qui veut montrer une fois de plus qu'il est au centre de la révolution de l'intelligence artificielle. Et donc là, on est dans une salle de concert, il y a 18 000 personnes, 300 000 personnes attendues en tout, en présentiel et en distanciel, donc Woodstock, ça doit être à peu près ces chiffres-là, avec comme rockstar, j'allais dire, Jensen Huang, qui est le patron d'Nvidia, emblématique, le fondateur, avec sa veste en cuir, comme à chaque fois, qui venait présenter son nouveau bébé. C'est ça que tout le monde attendait, sa nouvelle génération de puces, de GPU, comme on appelle ça. Alors, elle est appelée Blackwell, celle-ci. Les GPU, pour rappeler, hein, c'est la brique de base de l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet d'entraîner les modèles de langage, par exemple. C'est ce qui permet de les faire tourner aussi. Quand on utilise ChatGPT au quotidien, eh bien, ça passe par un GPU Nvidia. Et là, on a la nouvelle génération qui arrive. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est une nouvelle architecture.
Ça va vite.
Ce qui permet d'aller, voilà, exactement, beaucoup plus vite, 4 fois plus vite, et d'être 25 fois plus efficace d'un point de vue énergétique, ce qui est un très gros enjeu. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est très gourmand en énergie, les usages sont exponentiels, et donc évidemment, on va avoir besoin de puces moins énergivores. Ça va venir remplacer ou succéder à la H100, c'est la star du secteur en ce moment, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est des composants qui coûtent 40 000 dollars pièce, et que toutes les entreprises s'arrachent à tel point qu'Nvidia peut se payer le luxe de choisir ses clients aujourd'hui. Ça va probablement être exactement la même chose avec cette nouvelle génération.
Voilà, une super puce à l'occasion d'un super événement, tout ça dirigé de main de maître par un super PDG, tout va bien chez Nvidia. Et à noter que la semaine prochaine, mardi prochain, je recevrai Serge Palaric, qui est le vice-président IMEA chez Nvidia. Il viendra nous présenter en fait toutes ces nouveautés qui sont nombreuses.
Pour l'anecdote, Jensen Huang est allé dans le restaurant où il faisait la plonge, qui était un des, vous savez, vous connaissez ces franchises, ça s'appelle les Denny's là aux États-Unis.
Voilà, les trucs de les burgers
un peu très entrée de gamme, ouais. Et il était plongeur dans ses restaurants, et c'est là où il a eu l'idée un peu. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo, il se disait mais tiens, comment améliorer plus, ouais. Et là il est retourné pour fêter les 40 ans ou les 30 ans de l'entreprise. Il est retourné sur ce Denise, il a laissé 1000 dollars de pourboire à tous les salariés. Donc c'était assez, enfin voilà, c'était pour une petite anecdote autour de Jensen Huang, qui, parce que je faisais un peu le rapprochement, Steve Jobs n'avait pas donné 1000 dollars à tout le monde, mais voilà, qui devient une vraie personnalité, oui. Voilà, on va.
C'est vrai, il sort du bois, parce que, nous, spécialistes de la tech, on l'a repéré il y a quelques années. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est passé du jeu vidéo à l'automobile, hein, il a eu très tôt il a pris le virage, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, de l'automobile. Le minage de crypto-monnaies, il y a quelques années de cela, et là maintenant, l'intelligence artificielle. Belle boîte,
en fait,
Nvidia.
Il a pas changé, il a toujours fait pareil. Il a fait toujours les mêmes GPU, et ce sont ces secteurs sont venus chez lui. Hein. Il n'a pas changé d'activité, Nvidia. Jensen Huang, c'est toujours ces mêmes GPU qu'il améliore. Donc là, c'est une amélioration. Donc Anthony l'a bien dit, 4 fois plus puissant, 4 fois moins gourmand en énergie. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant au-delà du produit, c'est l'événement. C'est de voir que c'est un produit que personne ne va acheter. Hein. Moi, je ne serais pas client d'Nvidia, personne autour de cette table non plus. Mais c'est de voir qu'il fait une keynote comme Steve Jobs les faisait à l'époque, devant encore plus de monde. Il y avait des milliers dans la salle, il y avait des entreprises, il y avait tous les géants de la tech, il y avait L'Oréal, il y avait Jaguar. Enfin voilà, c'est devenu. Prenez une entreprise, multipliez son cours de bourse par 10 en un an et demi. Hein. C'est 2200 milliards de dollars le cours de bourse d'Nvidia. Mettez cette technologie-là au cœur de ce qu'on présente comme la révolution technologique du moment, et voir la révolution de l'économie mondiale, eh bien vous obtenez ce phénomène-là, même si c'est vrai que le grand public, les gens qui nous écoutent, Nvidia, c'est dans le capot, c'est sous le capot, on ne le voit pas.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des comparaisons. Il serait possible, en fait, d'entraîner les derniers modèles d'IA en utilisant 2000 puces de type Blackwell, donc c'est la nouvelle puce, pendant 90 jours et en consommant 4 mégawatts d'énergie. Et avec les puces H100, qui sont donc les puces actuelles, cet apprentissage nécessiterait 8000 puces et 15 mégawatts. Donc on se rend compte, là, concrètement, de l'avancée technologique de cette nouvelle puce. Yves.
Moi, je suis
c'est assez fascinant l'accélération qui est en train de se passer, et c'est pas par hasard que Nvidia arrive où il est. D'abord, il y a énormément de travail, énormément d'investissement, énormément de risques. Il a, comme tu le mentionnais, Frédéric, fait plusieurs choses, entre autres les cartes graphiques pour les jeux. Il faut savoir qu'il est taïwanais. Taïwan, c'est quand même là où il y a eu tous les ordinateurs pour jeux. C'est là où il y a TSMC. Donc, il y a vraiment un écosystème, moi, qui est vécu et travaillé à Taïwan. Je pense que je suis assez bien placé pour parler de ça. Donc, il fait partie de cet écosystème. Il fait partie de cette famille-là. Et il est doué. Bon, maintenant... Ce qui est remarquable aussi, c'est que par-delà la puce, il a fait un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des développeurs, il y a des programmes, il y a des clients.
Oui, ils ont présenté beaucoup de grosses plateformes logicielles hier.
Et en fait, même s'il a un concurrent qui demain va faire le même type de chipset, qui va copier ce qu'il fait, eh bien, le concurrent, il n'a pas cet écosystème. Donc, il est dans une situation.
Oui, de monopole, quasi.
Alors, quasiment de monopole. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose...
Ce qui est fou, c'est qu'il laisse sur le bas-côté Intel.
On voit à la télé la taille. Parce que pour faire des chipsets de cette taille-là, c'est le maximum de taille qu'on sait faire. Mmh. Et alors, évidemment, il y a beaucoup de processeurs, mais c'est... Je vous assure que c'est incroyable de faire ça d'un point de vue industriel.
Parce que là, c'est gravé en quelle finesse...
Je pense qu'il est en 3 nanos.
En 3 nanos, vous rendez compte, parce que c'est une grosse puce avec du 3 nanos...
Et ce qu'il y a de fou par-de-ça, c'est l'avancée de la technologie américaine. Quand on voit ça, alors là, on dit, le reste du monde, la totalité du reste du monde a complètement décroché. Et là, les États-Unis, tout d'un coup, avec ça, plus avec ce qu'a annoncé Sam Altman en Corée de GPT-5 hier, parce qu'ils travaillent ensemble, ils sont sans arrêt fourrés ensemble, ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre à vol d'oiseau.
Rappelle-nous ce qu'a dit Sam Altman justement en Corée concernant la différence de puissance entre ChatGPT-4 et la version 5.
Alors c'était cette nuit pour nous, parce qu'il y a un décalage. Il était dans une petite salle, c'est rigolo de regarder ça. Il y avait quelques personnes, puis il interviewait, donc on voit quelqu'un au micro, et puis il y a une trentaine de mecs qui sont là un peu avachis sur des canapés, etc. Et il lui pose la question, alors c'est quoi ton nouveau truc, quoi? Et il dit, on va sortir ChatGPT-5. Et donc il y a un petit débat, et il explique un truc, et il dit la différence entre GPT-4 et GPT-5, c'est la même différence qu'entre GPT-3 et GPT-4. Alors, ça dit pas grand-chose, sauf que GPT-3, c'était vraiment la préhistoire. 3,5.
C'était la grosse claque.
Celui qu'on a connu.
Qui était lancé en novembre 2022.
Ah ouais. Et 4, on a dit, ouais. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va dire, quoi. Parce que s'il y a le même écart entre 4 et 5 qu'il y a entre 3 et 4...
Ouais, ça va être violent.
Et pour faire cet écart-là, il faut des puissances de calcul. Comme par hasard, ils disent les choses le même jour ou à quelques heures d'intervalle. Aux deux coins du monde.
Il l'a pas laissé entendre quand pour arriver ChatGPT-5.
Alors ils lui ont posé la question. Il a dit qu'il savait pas, parce que je pense que c'est compliqué, qu'il faut
bien sûr.
Pas faire n'importe quoi.
Et je pense que depuis les mésaventures au bord de OpenAI, il doit vraiment réfléchir avant de parler, je pense, avant de dire des bêtises.
Mais il annonce déjà le 5. Allez, tout le monde sait que c'est pas dans 2 ans. Ce sera entre maintenant et peut-être 12 mois. Mais on ne peut pas faire une annonce quand on est CEO d'une boîte comme ça à 24 mois. Ça n'existe pas. Donc, ça donne des ordres d'idées. C'est probablement pas 15 jours, sinon il l'aurait dit. Mais voilà, on est qu'entre 6 et 12 mois, il ne faudrait pas être surpris de le voir annoncer.
Une bonne communication, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est une bonne communication. Non, ce qu'il faut regarder par rapport à Nvidia aussi, c'est comment tout ça va évoluer. Parce que les autres concurrents, les AMD, Intel, ils ne vont pas rester non plus à regarder le trapassé. Ils sont en train de travailler sur des choses. Alors, peut-être moins, c'est-à-dire que Nvidia, comme l'a dit Fred, Nvidia est resté sur une technologie de matriciel, calcul vectoriel. Alors là, grâce au logiciel, ils ont réussi à réduire, à augmenter la performance et à réduire, alors un peu de matériel évidemment, mais c'est une très très grosse boîte de logiciels aussi. Il faut le voir. D'ailleurs, ils ont sorti une plateforme logicielle pour donner encore plus d'intelligence aux robots. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'on a vu Sam Altman, pour le reciter, qui est en train de chercher des milliards, des milliers de milliards milliards pour investir dans les nouvelles puces. Il y a certains qui se disent, ben oui, mais on commence, parce qu'on commence à voir vraiment, même des clients entreprises qui disent, moi je vais prendre du Gemini avec la puce Google. Moi je vais prendre du Gemini avec, tiens, je vais prendre moi du Nvidia. Et donc certains se disent, tiens, on a peut-être des domaines où on n'aura pas besoin d'un tel type de puce à 40 000 $ qui
consomme. Et donc là, Intel ou AMD peuvent avoir leur mot à dire.
AMD peuvent avoir des puces beaucoup plus spécifiques.
Ou Qualcomm même.
Dédiées à l'IA, parce que là, on l'a dit, on est parti.
Même Qualcomm, finalement.
Parce qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo demandait, notamment pour avoir une qualité d'image, demandait plein de calculs, que ces puces étaient très importantes, enfin, étaient compatibles, justement, avec ce qu'on recherchait en IA. Mais maintenant, si on refait un peu son modèle de pensée et qu'on commence à développer, à se dire, tiens, pour l'IA, j'ai besoin de ça, et bien voilà le type d'architecture de puce, on va peut-être avoir une nouvelle génération. Et donc, et Nvidia est quand même très prudent. Alors, ils doivent aussi avoir dans leur labo, ils imaginent des choses. Mais je pense que la bataille 2024-2025, ça va être assez intéressant de voir si Nvidia va garder cette suprématie. Certains commencent à en douter en disant, voilà, on a quelques signaux faibles comme quoi...
Après, Nvidia a se retourner. Une telle avance, on sait que dans ce secteur des technologies du numérique, il y a toujours une primo leader. Et aujourd'hui, l'archi leader est Nvidia. Alors oui, ça ne veut pas dire que de toute éternité, Nvidia dominera le marché. Mais aujourd'hui, Nvidia se présente comme c'est ce qu'a dit le PDG Wang, comme le fondeur de l'IA. Il se présente un petit peu comme le TSMC de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que Nvidia ne fabrique pas ces puces. Il est fait fondre par des fondeurs. Mais lui dit, moi, je suis le fondeur de l'IA. C'est-à-dire, je fabrique les briques de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est incontournable.
Il me rappelle Cisco. Tu sais, Cisco disait, nous, on a 80%. Mmh. À une époque, Cisco, c'était 80% des routeurs Internet. Tout Internet fonctionnait à 80% grâce à des routeurs Cisco. Aujourd'hui, Cisco, ils viennent de sortir 28 milliards pour acheter Splunk. Mais ils n'ont plus cette suprématie. Donc, il faut. J'espère qu'ils seront tirés les leçons pour garder cette avancée.
Mais on voit d'autres choses arriver. Là, c'est des chipsets. Donc, on voit, c'est monolithique. C'est la même chose. C'est des gros GPU. GPU, c'est au départ, c'était pour faire du graphique. G comme graphique. OK. Et on voit maintenant quelque chose qu'on appelle des chiplets. OK. Et ce sont des architectures un peu différentes où ce sont des petits sets, des chipsets répartis qui parlent entre eux avec un espèce de cœur, on va dire. Des GPU qui se parleraient entre eux avec des cœurs. Donc, et là, AMD a fait le pari du chiplet. Donc je pense que on va avoir une compétition. On voit par exemple une société comme Blue Ocean qui se met à faire des chiplets et qui commence. AMD fait des chiplets. Au départ, Nvidia a dit on n'y croit pas du tout. Et il y a une petite année, discrètement, ils ont dit qu'ils allaient se mettre à faire du chiplet. Mais le pionnier dans le chiplet, c'est AMD. Et je pense que dans 3-4 ans, il va y avoir une vraie compétition sur les serveurs AI, entre des chipsets et des chiplets.
Et donc AMD pourrait revenir sur le devant de la scène avec.
D'ailleurs, il suffit de regarder le cours d'action d'AMD.
Et puis surtout avec SoftBank qui est en train de remettre de l'argent aux pauvres. Rappelez, SoftBank voulait à un moment revendre AMD à Nvidia. Juste un mot, Yves.
Et après, on enchaîne sur Apple.
Ouais, toi qui connais bien cet univers, tout le contexte géopolitique. On n'en parle pas beaucoup, pourtant on sait que quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine, se dit Taïwan, c'est protégé tout ça, mais est-ce que là il y a quelque chose qui pourrait un jour jouer parce qu'il faut quand même rappeler que tout ça est fondu
à Taïwan.
Mais il s'avère qu'à l'endroit où j'habitais à Taïwan, à littéralement 50 ou 60 mètres de chez moi, habitait le fondateur de TSMC. Bon, sa maison était un peu plus grande
que la tienne.
Et puis lui, il y avait beaucoup de gardiens. Je pense que Taïwan, c'est le cœur. C'est sûr qu'il y a un enjeu. Les Chinois travaillent plus sur le chiplet parce qu'ils savent que sur le chipset, ils sont largués. Les Américains ont décidé de faire des usines, ont demandé à TSMC de faire des usines aux États-Unis, c'est-à-dire ils se préparent. Bon, maintenant, le jour où les Chinois vont envahir Taïwan, s'ils l'envahissent un jour, s'ils devaient l'envahir un jour, je pense qu'il faudrait être fou pour détruire TSMC, quoi. C'est la poule aux œufs d'or.
Bien sûr.
Et de toute façon, il y a tous les ingénieurs resteraient là. Donc, c'est vrai que c'est une vraie interrogation géopolitique.
Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer.
Ça, c'est
vraiment, c'est une grande interrogation.
C'est l'histoire entre Asiatiques.
Ouais. 20h50. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi ce gros titre d'actualité que tu as évoqué déjà hier, hein, oui, Fred, hein, puisque tu étais à la présentation de Tech & Co. C'est Apple. Alors, vous savez qu'Apple est en train de préparer son iPhone 16 qui sortira à la rentrée. Et avec l'iPhone 16, iOS 18, qui est le nouveau système d'exploitation qui est mis à jour chaque année. Depuis un moment, on nous dit que ce système d'exploitation mettra vraiment en avant l'intelligence artificielle. Le seul truc, c'est que Bloomberg aurait eu des informations comme quoi Apple sera en train de négocier avec Google pour intégrer Gemini, en fait, donc le ChatGPT de Google, hein, pour faire clair, pour que tout le monde comprenne, dans l'iPhone. Et là, c'est quand même une sacrée news. Tu l'as commenté hier, je pense qu'il faut y revenir aujourd'hui. J'aimerais avoir ton avis, Yves, et aussi Fred, là-dessus, parce que c'est aussi un petit constat d'échec pour Apple, qui, s'il est obligé de faire appel à Google, c'est qu'il n'est pas prêt pour avoir sa propre solution maison en termes d'intelligence artificielle, non ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ben, et après, Fred. Oui, c'est une surprise et c'est pas une bonne surprise pour les fans d'Apple parce que, comme tu le dis, c'est quand même un constat d'échec.
C'est une rumeur pour l'instant, hein, attention.
C'est une rumeur. Bon, ce qui est sûr, c'est que tous les gros ont tous eu une solution sauf Apple. Apple a fait le pari de garder, hein, c'est toujours de garder les données personnelles sur le téléphone. Et donc, il a fait le pari d'avoir des chipsets, hein, d'avoir ces petites puces qui vont permettre à l'intelligence artificielle de travailler sans sortir du téléphone, okay, pour garder les données dans la poche du consommateur et lui garantir que ça... Sauf que pour faire ça, c'est un pari qui est très osé. Et aujourd'hui, il semble que l'ensemble du software et de ces puces de chez Apple ne soit pas au niveau, en tout cas, pour être par rapport à la compétition. Donc ils sont très probablement, ils vont y arriver, ils vont y aller, ils travaillent, mais en attendant, soit ils continuent à prendre du retard, soit ils sont obligés de partir avec un autre partenaire, et comme ils travaillent déjà avec Google, ils partent avec Google. Alors après, ça pose beaucoup de questions sur le droit à la concurrence, sur etc., etc., mais je pense que le pari d'Apple reste de faire de l'intelligence artificielle qu'on appelle on-edge, c'est-à-dire sur le smartphone, pour garder les données utilisateurs sur le smartphone. Alors que si l'intelligence artificielle est faite dans le cloud, évidemment, les données, à un moment, sortent. Et quand elles sortent, elles sont plus vulnérables.
Ben, c'est un petit peu c'est, Apple s'est enferré là-dedans, finalement, dans cette communication. Chez nous, vos données sont protégées. On voit ces pubs où l'iPhone se retourne et où on a un cadenas. Donc, finalement, Tim Cook s'est retrouvé coincé dans sa communication.
Cadenassé.
Voilà. Hein, et c'est, exactement. Bravo, Yves Maître.
Bravo.
Tim Cook est un peu pieds et poings liés par sa communication en disant, ben, chez nous, notre écosystème est le plus sûr. Donc, il faut que tout soit dans le téléphone. Ensuite, moi, l'accent que je voudrais mettre, c'est quel rendez-vous manqué quand même de la part d'Apple. Apple, ils arrivent en 2011 avec un assistant personnel Siri qui aurait pu être la base de départ de justement une intelligence artificielle générative. Ils auraient pu mettre énormément de moyens là-dedans, investir là-dedans. Apple a quand même d'autres moyens que ce qu'a pu avoir OpenAI depuis quelques années. Apple aurait pu mettre le paquet là-dessus. Ils ne l'ont pas fait. Ils se retrouvent aujourd'hui avec un modèle, avec un langage Ajax qui, semble-t-il, n'est pas prêt. Ils vont taper à la porte de Google et peut-être d'autres. Hein, on dit Google, mais apparemment, ils seraient allés voir Mistral aussi.
OpenAI.
Et pour vite essayer de rattraper ce qui peut l'être, moi, je trouve que... Est-ce qu'on n'atteint pas un peu les limites du management de Tim Cook qui n'a pas su
juste une chose,
investir et mettre ses œufs où il fallait?
Juste une chose, entre Apple et Google, il y a des relations, on va dire, cordiales la plupart du temps. Hein. Il faut savoir que le moteur de recherche dans Safari, c'est Google. Et je crois que Google donne des milliards et des milliards à Apple chaque fois. Rappelons que le premier iPhone, la première appli sur l'iPhone que Steve Jobs avait présentée, il y avait YouTube. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, c'était déjà un service Google. On voit qu'il y a enfin, c'est des concurrents sur plein de choses, mais c'est aussi des partenaires. Et finalement, là, peut-être que Tim Cook se dit, mon partenaire de l'IA, pourquoi pas Google, quoi, finalement.
J'ai une théorie aussi là-dessus. Alors, au-delà de tout ce que vous dites, ce qui est parfaitement juste, c'est qu'on ne regarde pas assez les hommes. Et je pense que les cerveaux de l'IA, ils sont pas chez Apple. Et c'est le gros souci. Les cerveaux de l'IA, ils sont chez Google, ils sont chez OpenAI. Il n'y en a pas des milliers. Je fais souvent l'analogie.
Mais Apple a un trésor de guerre de près de 200
milliards. Mais oui, mais il faut avoir envie d'aller chez Apple.
Il faut avoir envie. Donc c'est un problème et on de peut stratégie parler. D'entreprise. Et donc,
c'est comme le foot. Hein. Le foot, t'es un super joueur de foot. On va te dire, bah, tiens, mais tu vas te payer 10 fois plus. Tu vas aller jouer en Arabie Saoudite parce qu'ils vont te payer 10 fois plus. Je dis, oui, mais moi, la compétition, elle est en Europe parce qu'il y a le Barcelone, parce qu'il y a le Madrid, parce qu'il y a le PSG, etc. Et je pense que dans l'IA, moi, je suis en train de monter ça, je suis en train d'essayer de repérer un peu les 200 personnes qui comptent dans l'IA et d'essayer d'un peu de voir. Alors parmi ces 200 personnes, on dit qu'il y en a 70-80 qui sont vraiment les gros cerveaux, et à mon avis il n'y en a pas beaucoup chez Apple, et c'est ça le gros souci. Il y en a beaucoup dans les startups, il y en a beaucoup évidemment chez Google, OpenAI, voire même chez Amazon, chez Microsoft, etc. Et je pense qu'ils ont un vrai souci d'avoir le Johnny Ive de l'IA. Enfin, c'est l'une de mes hypothèses.
Quand il a fallu dépenser par exemple dans l'automobile, ils ont su aller chercher les experts, ils ont su mettre les milliards sur la table pour au final se planter. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ces milliards là et débaucher des experts de l'IA plutôt que courir après ça,
après l'IA il y en a déjà dans l'iPhone après de l'IA il y en a déjà dans l'iPhone
il y en avait déjà, mais ils n'ont pas aujourd'hui de l'IA générative.
Là on parle d'IA générative, on est d'accord, hein, c'est le fait de rendre Siri moins bête.
Il y a quand même une interrogation sur Apple, c'est la plus grosse capitalisation mondiale. Ils ont annoncé dans les 12 derniers mois pas de téléphone pliable, ok.
Après les avis divergent là, visiblement. Il y a des rumeurs.
Enfin, aujourd'hui, il y en a pas. Samsung en a, Honor en a, Xiaomi en a, enfin tout le monde en a. Huawei en a, pas eux. C'est les seuls qui n'en ont pas, quand même. La voiture, ils annoncent qu'ils arrêtent. Le dernier iPhone, les nouveautés, faut un peu les chercher.
Un casque très.
Ils innovent avec le Vision Pro. On n'a pas le temps d'en parler le timing.
Le Vision Pro, c'est une innovation.
Quand même.
Pour le moment, on ne savait pas si c'était un top ou un flop. Pour le moment, on n'est pas sûr que ce soit du tout un top. Alors, on verra les générations à venir.
C'est dans des années qu'on s'en rendra compte.
On s'en rendra compte. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Tim Cook a annoncé, il l'a annoncé publiquement, qu'il était temps de prendre la retraite. Donc, je pense qu'il y a une attente et il y a un besoin. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il faut que je prenne ma retraite. Donc, quand quelqu'un dit il faut que je prenne ma retraite, c'est pas dans 15 ans, ok, sinon il le dirait pas. Ça veut dire que c'est quelques années,
dans quelques années,
3 années. Bon. Ça veut dire que Apple va devoir changer, et à un moment de changement, et il faut qu'il change.
On reviendra évidemment sur ce sujet parce qu'il est toujours très intéressant de
on pourrait faire une soirée un peu spéciale Apple en panne d'innovation.
Ouais, en panne d'innovation. En effet, on invite Tim Cook, tiens, pour voir s'il pourrait venir nous en parler. Juste une info, on va avoir une VP de chez Apple bientôt. Mi-avril, on aura la VP Santé Monde. Qui sera sur le plateau de Tech & Co. pendant une demi-heure. Vous savez que, alors, s'il y a plein de choses qui marchotent chez Apple et d'autres qui marchent très très bien, l'Apple Watch marche très bien. Et en fait, tout ce qui sont la stratégie santé qui sont en train de dérouler est passionnante.
C'est la santé, oui.
Ouais, et on en parlera donc avec la VP santé qui sera avec nous.
Le développement durable, ce sont deux des gros succès d'Apple en ce moment.
Exactement. Et puis l'iPhone, il ne faut pas oublier qu'attendez quand même, c'est un téléphone, enfin, c'est le téléphone le plus vendu au monde. Malgré tout, et qui
c'est vrai
commence
qu'il
à mille
moins d'excitation. On a déjà parlé parce qu'il y a moins d'innovation dans tout le secteur.
On va parler de la santé de l'innovation chez Apple.
Ouais, voilà, c'est ça. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Yves. Yves Maître a été avec nous ce soir. Merci à Fred Bianchi.
Merci à tous.
Et merci à Fred Simotel.